Octave Mirbeau, Des artistes, saison 2, Toujours des lys. Au salon du Champ de Mars, nous nous étions, Cariste et moi, arrêtés devant les Burne Jones. Cariste dit « Moi aussi, autrefois, j'ai clamé « Oh, Burne Jones !» avec des yeux mouillés d'extase et une bouche en prière. Il est vrai que je ne connaissais rien de lui et que ce cri d'adoration, je le poussais sur la foi d'esthète très emballé qu'il l'ignorait plus encore. Et puis, c'était la mode dans les cénacles néo-bocchistes. Je l'ai connu depuis, à Londres, et le voilà encore à Paris. Là, franchement, conçois-tu un art plus irrécusablement calamiteux que celui-là, un art plus indiciblement rien? Mais c'est en dessous des chromos de suppléments illustrés. Cela s'apparie à feu de l'or et à un défunt M. Béraud qui ravigote ses mysticités de ce fameux accent parisien, tu sais. Ah, ils me font rire les esthètes qui divinisent Burne Jones et montrent de si forts dédains envers Alma Tadema. Pourquoi? On n'en sait rien, car c'est exactement le même art ou, si tu préfères, la même absence d'art, avec cette différence pourtant, en faveur de Tadema, que ce dernier comprend mieux, tout de même, son métier de bas-enlumineur et de patient lécheur de marbre. Non, vois-tu, Burne Jones est une des plus énormes mystifications de ce temps. Ils sont 20 000 dans les soupentes des écoles de dessin et les académies officielles qui peignent comme ça, et on les engueule, c'est stupéfiant. Et il raconte à ses familiers « Moi, je ne suis pas un Anglais, je suis un Italien du 15e siècle. » Pas Anglais, lui, un pauvre petit. C'est-à-dire qu'il résume à soi seul toute l'Angleterre burlesque. Pas Anglais, mais ce n'est pas Burne Jones qu'il devrait s'appeler, c'est Bull John. Écariste se mit à rire d'un rire strident et mauvais. Il poursuivit avec des gestes nerveux. « Examine maintenant cette toile, l'amour dans les ruines, non pas au point de vue du dessin, oh, si péniblement, si onaniquement indigent, ni de la couleur, si intolérablement hostile, mais au point de vue de l'ensemble. Tout y a la même importance picturale et la même valeur dramatique. Le groupe des amants, les monuments, le portique, les horizons, le ciel, les lianes sauvages, les fleurettes perdues dans l'herbe. Tu peux découper cela en 50 morceaux au hasard et tu auras 50 tableaux, tous plus complets, plus archi-finis les uns que les autres. Le morcellement de la grande peinture, quoi. Et tu appelles cela de la composition? Il y a plus fort. Si tu poses une colle à un fervent de Burne Jones, il finira par t'abandonner le dessin, la couleur, la mise en toile, qualité qu'il juge extérieure, par conséquent nuisible à une œuvre d'art. Et il te dira « Tout cela est hideux, soit. Mais vous oubliez, monsieur, que le maître donne aux femmes des apparences de jeunes garçons, aux jeunes garçons des apparences de femmes, et que c'est là une intellectualité admirable, extraordinaire. Vous oubliez que cette substitution des sexes cache tout un monde de pensées merveilleuses et de suradorables symboles. Oui, monsieur, tout un monde. Compte là-dessus, mon bonhomme, et chacun t'expliquera à sa façon ses intellectualités extraordinaires, ses pensées merveilleuses, ses suradorables mystères. Les uns t'affirmeront que telle toile est d'une pureté liliale et parthénonésique, les autres qu'elle est d'une satanique perversité, et ils t'en donneront des preuves également plausibles. « Je vous plains, monsieur, » me dit un jour un brave Anglais, luxuriant armateur de Liverpool, « Je vous plains de ne rien comprendre à la magie de ces œuvres divines, car pour nous qui sommes initiés, nous y découvrons, et c'est notre récompense, nous y découvrons tous les jours d'émerveillantes et profondes obscénités. Quant à Burne Jones, il s'embrouille de plus en plus dans le labyrinthe de ses symboles. Il ne sait plus au juste si c'est chaste ou obscène, et il lui arrive cette malchanceuse ironie d'infliger à ses tableaux des commentaires successifs et différents qui se détruisent l'un par l'autre à 2 années de distance. Ah, qu'il eût sagement agi de suivre l'exemple de son compatriote, le poète Robert Browning, lequel fut un homme avisé et vraiment prévoyant, dans la crainte de ne pouvoir plus tard retrouver le sens de ses poèmes, il fonda une sorte de club dont il s'attribua d'ailleurs la présidence et qui fixa, après de longues discussions, la signification ne varietur de ses vers. Lorsqu'il se perdait dans ses propres symboles, il n'avait qu'à consulter un grand registre où les décisions du club étaient consignées et renforcées de notes copieuses. Ce registre lui était comme un guide, un Baedeker moral, auquel il recourait chaque fois qu'il entreprenait un voyage de souvenirs à travers les routes, les monuments, les villes, les jardins, les archipels de sa pensée. Il ne s'y égarait plus et ne s'exposait plus à ce désagrément de prendre un lys pour un fleuve et un château pour un cygne. Tout cela est vraiment comique. Allons prendre un boc, car j'ai soif. La foule était grande. Nous avancions lentement à travers les salles. Cariste continua. Et la folie qui est née de cela, est-ce curieux? Et comment l'expliquer? Car Paris commence à en être atteint. Je connais des salons parisiens où, sur des fonds de pavots mourants, dans des meubles de lac rose, quelques esthètes des deux sexes, et même des trois, se pâment au nom de Burne-Jones. Mais en Angleterre, c'est bien autre chose. Burne-Jones est quelqu'un de plus qu'un peintre, c'est une sorte de dieu. Il a son culte, que célèbrent des jeunes femmes réunies en une secte élégante et mystique, qu'on appelle les âmes. J'ignore quels sont les rites de cette religion, et la nature des sacrifices qu'on y offre à la divinité. Mais je pense qu'il ne serait peut-être pas indifférent de les connaître et de les pratiquer. Les âmes sont, en général, de fort jolies personnes à chevelure rousse, de ce roux vénéneux et charmant que mit à la mode Dante Gabriel Rossetti. Drapées, comme la Véronica véronaise, en des robes flottantes aux tons fanés ou suris, elles cachent, avec la plus excitante des pudeurs, les lignes et les matérialités de leur corps sous des plis d'un esthétisme très étudié. De leur chair mortelle, elles ne laissent voir que le visage mince, effilé et très pâle, et de longues mains de martyrs que serrent au poignet des manches battantes comme des ailes. Par leur angélisme volontairement ambigu et leur incorporéité savamment troublante, elles s'efforcent de ressembler aux princesses, aux captives, aux vierges, aux chevaliers hermaphrodites que peignit le dieu Burne-Jones. Mais, quoi qu'elles fassent, elles n'en peuvent imiter la raideur mannequinée, la pauvreté de coloris et la sèche incorrection de dessin. La vie se trahit en elles par des bouches très rouges, étonnamment sensuelles, et des yeux ardents sous le bistre, et dont on ne sait pas bien quelle flamme en attise le regard, flamme de volupté ou d'ascétisme. Les deux, sans doute, car les vieux sadiques et les vieilles matrones te diront que rien n'exalte la luxure comme la singerie moniale, et qu'un cilice bien porté est un merveilleux adjuvant des amours damnés. On rencontre quelquefois des âmes dans les parcs de Londres. Elles marchent, ou plutôt elles glissent sur le sol, sur les gazons étoilés de crocus, un peu penchées, comme si elles allaient tomber. Et elles tiennent à la main, tragiographiquement, non plus des tiges de lys ou des branches de tournesol, mais des arômes, des SNDD d'arômes, dont le cornet ivoirin est en ce moment la fleur rituelle du pré-raphaélisme. Nous avions pu gagner le café, et devant les bocs servis et vidés, loin de se tarir comme eux, la loquacité de mon ami Cariste redoubla et se fit torrentielle. Une fois, j'ai, dans une maison de Chelsea, passé la soirée avec une âme. Oui, mon vieux, avec une âme. Oh, ce fut rigolo, je t'assure. Quand elle sut que j'étais un peintre symboliste et que je peignais des intellectualités avec 15 jambes et 18 bras et que je leur mettais le derrière sur la poitrine et le sexe au bout du nez, l'âme me fut aussitôt liliale et lointaine, et sororale, et botticellesque. Elle ne voulut plus me quitter et me raconta ses petites affaires. Ah, qu'elle était inassouvie et asexuée, si tu savais, tellement asexuée. Elle ne mangeait pas, sinon tous les 15 jours, à la pointe d'un couteau d'or, des confitures canaques faites avec des fruits inconnus. Ou bien elle buvait, dans des grâles de jade, un breuvage mystérieux, etc., etc. N'étant pas habitué à ses manières primaveresques, je crus qu'elle se moquait de moi. « Eh bien, moi, lui dis-je, ma chère âme, je mange comme un loup et je... comme un carme !» L'âme s'évanouit et je dus quitter le salon, poursuivi par les huées de l'assistance. Et, frappant sur la table, mon ami Cariste, dont l'œil s'allumait d'une double lueur de colère et de rire, me demanda brusquement « Enfin, pourrais-tu me dire pourquoi tous les antiphysiques ne vous parlent jamais que de Botticelli et de Maritesna, et pourquoi ils se roulent sur les étoffes de Liberty ?» Puis, fatigué d'avoir tant parlé, il se tut, sans écouter ma réponse. Le journal, 28 avril 1895.